en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, il est quelques rares personnes dont on se dit spontanément qu'elles incarnent l'esprit français, sans que l'on soit toujours capable d'expliquer précisément pourquoi. L'invité de notre série L'Essentiel est de celle-là, Marc Fumaroli, professeur honoraire au Collège de France, élu à l'Académie française en 1995, puis à l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1998. Marc Fumaroli qui se définit lui-même comme un érudit, historien de la littérature. Marc Fumaroli, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le principe de notre série L'Essentiel, cette question récurrente posée donc à tous les invités sur leur itinéraire, leur activité, leur regard sur le monde et notre société, leurs échecs et leurs motivations. Tout de suite, la première question. Dans votre itinéraire professionnel, dans votre carrière, quel a été, Marc Fumaroli, jusqu'à présent, à vos yeux, le moment essentiel ?
D'abord, je n'aime pas beaucoup le mot carrière. Je n'ai jamais conçu ce que je faisais dans la perspective d'une carrière. J'étais très étonné de rencontrer quelquefois des collègues qui m'expliquaient qu'ils avaient eu un plan de carrière, que par exemple, ils avaient été d'abord professeurs à Lille ou à Strasbourg, qu'ensuite ils avaient été professeurs à la Sorbonne, et que maintenant, évidemment, le plan de carrière doit se dérouler par leur élection à quelque académie. Alors moi, j'avoue que, étant un peu naïf, j'ai suivi ma vocation. J'avais, depuis le lycée, goûté tout ce qui touchait à l'enseignement littéraire, à la littérature latine, à la littérature grecque, à la littérature française, à la littérature anglaise aussi, puisque j'avais eu la chance d'avoir de très bons professeurs d'anglais. Et je me suis dit, voilà le plus beau métier du monde, je ne sais pas pourquoi je vais chercher plus loin.
Votre mère avait en plus été institutrice.
Ma mère était institutrice. Et donc, j'avais évidemment un penchant vers l'enseignement. Mais enfin, là, c'était quand même l'enseignement littéraire. Hein, ce n'était pas un autre. Et donc, j'ai fait ce qu'il fallait pour enseigner, pour changer de lieu au moment où les choses se dessinaient ainsi. Je me suis fait connaître sans le chercher, j'ai publié. De fil en aiguille, je me suis retrouvé, à ma grande stupeur, d'abord à la Sorbonne, à la suite d'une succession inattendue et très rapide, puis au Collège de France, qui était encore plus étonnant, parce que je connaissais naturellement l'existence du Collège, mais il ne serait jamais venu à l'esprit d'y aspirer. Or, j'avais à ce moment-là mon ancien professeur de la Sorbonne, Madame de Romilly, qui me dit « Mais cher ami, vous avez votre place au collège, je vais faire de mon mieux pour convaincre mes confrères que vous devez y entrer. » Et ça ne s'est pas passé facilement d'ailleurs, parce que j'ai eu un premier échec, et puis au second, ça s'est passé très bien, et j'ai donc enseigné longuement au collège. Quant à l'Académie française, c'était encore plus stupéfiant, parce que je pensais que je n'étais ni Paul Hasard, ni Henri Brémond, bien que c'était deux de mes modèles. Mais il faut croire qu'à force d'avoir des modèles et de les imiter modestement, on finit par leur ressembler. Et donc j'ai passé pour un candidat supportable à l'Académie française et j'y suis entré. Et je m'y trouve très bien. Mais je m'y trouve d'autant mieux que je n'avais jamais prévu d'y entrer. Et je suis tout étonné d'avoir eu cet excellent honneur et de participer à ces travaux sur la langue, sur le dictionnaire et sur toutes sortes d'ailleurs de sujets qui sont évoqués dans cette maison.
Mais comment vous est née votre passion pour le XVIe et encore plus pour le XVIIe siècle français ?
Mais écoutez, c'est venu très simplement. Moi, j'ai été élevé loin du centre, si j'ose dire, dans une petite ville plus que provinciale, puisque
merveilleuse,
c'est la petite ville de Fès, ville nouvelle, en marge de la célèbre et magnifique ville médiévale que vous connaissez sans doute. Et j'ai fait donc des études dans un lycée de province, mais au fond, très bon lycée, je m'en suis rendu compte après coup. Et j'avais la chance d'avoir une mère qui était une grande lectrice. Et à partir de 1942, nous étions coupés de la métropole, puisque l'Afrique du Nord avait été libérée, plus exactement, par les troupes anglo-américaines et puis un peu aussi par les troupes de la France libre. Et donc, j'ai vécu sur le fond, il était à la maison. Et à la maison, il n'y avait pas beaucoup de livres pour enfants. Ce qui fait que j'ai lu très tôt, je me souviens, j'avais peut-être 12 ou 13 ans, je me suis lancé dans la lecture des comédies de Molière. Et je me souviens très bien que j'étais tellement enchanté de ce que je lisais, je me représentais tellement bien ces personnages, et je riais si fort en lisant ces pièces, que ma mère venait me trouver en me disant « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es fou de rire tout seul. » Je dis « Oui, mais je lis du Molière. » Ah bon ? Alors elle était ravie de voir que j'étais un aussi bon public de Molière. D'autre part, j'ai lu aussi, tout ça se trouvait dans la bibliothèque de maman, il y avait aussi les œuvres complètes de Corneille, donc je me suis mis à Corneille. Et alors là, j'étais enchanté, je ne riais plus, mais j'étais bouleversé par la justesse des analyses, la précision merveilleuse des termes. Et d'ailleurs, que c'est un bonheur qu'on éprouve de moins en moins, parce qu'on joue de moins en moins Corneille. Mais tant qu'on l'a joué, et je me souviens avoir entendu, il y a seulement 5-6 ans, non pas la Comédie Française, mais dans la salle du Vieux Colombier, qui est maintenant attachée à la Comédie Française, une représentation d'une pièce qui n'a jamais été rejouée depuis le XVIIe siècle, la pièce de Corneille qui s'appelle « Tite et Bérénice », et qui lui avait été commandé en rivalité avec la Bérénice de Racine. Et je me suis rendu compte, parce que c'était vraiment une des rares pièces de Corneille que je ne connaissais pas vraiment, que j'avais parcouru, mais que je n'avais pas lu à fond, que c'était au moins aussi beau que Racine. Et c'était peut-être même, à certains égards, beaucoup plus profond et d'une construction absolument superbe, une construction d'un classicisme formidable. Alors là, effectivement, la Comédie Française a joué vraiment son rôle parce qu'il n'y avait aucune histrionisme. Les acteurs ont joué merveilleusement leur rôle. Ils avaient de la diction qu'il fallait. Et donc, je me suis retrouvé non seulement devant une pièce de Corneille qui me plaisait et que je découvrais, mais aussi devant ce bonheur d'enfance, de première adolescence, que m'avait donné la lecture de cet auteur. Alors à partir de là, il est bien évident que le peu d'études que j'ai faites de littérature au lycée, j'ai orienté plutôt vers le XVIIe siècle. Quand le temps a été venu de préparer des diplômes de maîtrise, comme on disait à l'époque, ou de préparer l'agrégation, je me suis beaucoup attaché aux auteurs du XVIIe siècle.
Oui, Racine d'abord, Corneille ensuite.
Ensuite, tout y est passé, les mémoires, les poésies, la poésie lyrique. Et puis la société du XVIIe siècle, et puis l'histoire du XVIIe siècle. Enfin bref, je veux dire que j'ai commencé mon existence dans une certaine exotisme, puisque je vivais à la fois les années de la fin de la IVe République et du début de la Ve République, mais en fait, le centre de mon existence était vraiment déplacé dans le temps. Et je crois d'ailleurs que j'ai découvert après coup, parce que je n'avais jamais rien cherché de ce genre, que d'avoir la chance de pouvoir vivre dans deux temps à la fois, peut-être même parfois, maintenant c'est le cas, dans plusieurs temps à la fois, c'est une très grande sagesse. Parce que d'abord on prend de ces différents temps que l'on a réussi à pénétrer et dans lesquels on habite à la fois, on en prend le meilleur et donc on est un peu consolé de toutes les noirceurs, de toutes les ombres, de toutes les cruautés que, naturellement, chaque époque comporte. Alors, je ne dis pas que je les oublie ni que je les chasse, mais disons que je n'en suis pas aussi obsédé que l'on peut l'être lorsque on vit les yeux collés sur l'actualité et sur l'immédiat.
D'ailleurs, l'actualité est un mot que vous n'aimez pas. La modernité est un mot que vous n'aimez pas.
Je ne suis pas contre la modernité, parce que c'est un mot qui est quand même sacralisé, si je veux dire, par l'emploi, quand on fait tour à tour Chateaubriand et Baudelaire. En fait, c'est plutôt la confusion que l'on fait entre moderne et contemporain. Je comprends qu'on soit moderne, parce que moderne, cela veut dire en conflit contre les conventions, en conflit contre ce qui est desséché, ce que l'on répète par habitude. Le moderne, c'est la volonté de surprendre, de découvrir quelque chose d'inédit. C'est tout à fait merveilleux. Et là, je dois dire que je suis tout à fait dans cette orientation. Mais de là à confondre le moderne et le contemporain, et prétendre que les choses qui sont contemporaines, par définition, du fait même qu'elles sont vos contemporaines, ont une valeur, je trouve que c'est supprimer tout jugement de valeur. C'est renoncer d'avance à établir une hiérarchie entre ce qui vaut la peine et ce qui n'en vaut pas, ce qui est nourrissant ou ce qui est desséchant. Et donc, là-dessus, je suis effectivement assez remonté contre la notion de contemporain.
Deuxième question récurrente de notre série L'Essentiel. Qu'est-ce qui vous paraît essentiel à dire, Marc Maurly, sur votre domaine d'activité aujourd'hui, si tant il est qu'on puisse le définir précisément, parce que vous touchez à beaucoup de choses quand même.
Oui, alors, évidemment, j'ai commencé, si j'ose dire, en émigrant au XVIIe siècle, mais le XVIIe siècle mène à tout, à condition d'en sortir. Je suis donc sorti pour d'autres temps, d'abord, le XVIIIe, le XIXe, en général en Europe. Mais l'Europe est un espace tellement varié. L'Europe, c'est l'Italie, l'Europe, c'est l'Angleterre, l'Europe, c'est la Hollande, l'Europe, c'est l'Espagne. Et chaque fois, c'est un monde complètement différent. C'est à la fois le même et totalement un autre. Donc, je me suis rendu compte que le XVIIe siècle n'était pas un monde clos, mais un monde ouvert, et que je pouvais, en quelque sorte, me retrouver dans des lieux fort différents, dans des temps différents, et les connaître de l'intérieur, ou en tout cas m'efforcer de les connaître de l'intérieur, d'avoir avec eux une grande familiarité. Et puis, j'ai commencé aussi à m'intéresser avant tout au texte, hein, à la prose comme au vers. Et puis, je me suis rendu compte, d'ailleurs plutôt à partir du moment où j'ai abordé l'Italie et où je suis allé de plus en plus souvent en Italie, que le domaine de l'image, le domaine des arts visuels, en fin de compte, selon le beau dicton d'Horace, la poésie est comme la peinture, ou la peinture est comme la poésie, a beaucoup de vrai, même si on le critique aujourd'hui. Et donc, je me suis intéressé de plus en plus à l'histoire de l'art. J'en ai fait, modestement, naturellement, plutôt en hôte, si vous voulez, qu'en véritable citoyen. Enfin, j'ai trouvé, malgré tout, quelques historiens de l'art qui m'ont soutenu, qui m'ont encouragé, qui m'ont même cornaqué, comme dirait l'autre. Et je pense à mon cher André Chastel, je pense à un grand américain, Irving Levin, et pour en citer un grand nombre de vivants français. Mais ce qui fait que, par exemple, grâce à ce déploiement, si j'ose dire, à cette multiplicité, je peux me retrouver président de la Société des Amis du Louvre, je peux me trouver président de la Société d'Histoire Littéraire de la France. Tout cela est passionnant, parce que ce sont des petites sociétés privées qui ne rapportent rien, mais qui font un travail inouï, avec pas d'argent du tout. Et ça met en joie de penser qu'avec si peu de fonds, on peut faire de si belles choses, alors qu'ailleurs, avec d'énormes bureaucraties et d'énormes budgets, on fait non pas le quart, mais le centième de ce que nous faisons avec nos petits personnels et notre dévouement que nous y mettons et l'amitié qui nous lie.
Quand on vous écoute, il y a une chose qui est presque toujours évidente, c'est cette modestie. On a l'impression que vous êtes toujours étonné que les gens vous estiment. Et ce n'est pas chez vous une affectation, c'est assez étonnant. Vous parliez de votre parcours tout à l'heure en comme une espèce de hasard
oui,
accumulé.
C'est une accumulation de hasard. Ouais,
mais est-ce que ce n'est pas le privilège du talent que le hasard vous pousse comme ça, alors que d'autres besognent pour pousser les portes?
On n'en sait rien. En tout cas, je n'ai jamais poussé les portes. Jamais. Mais ce que vous dites me touche assez, parce que à plusieurs reprises, je me suis dit, mais après tout, je pourrais raconter, je pourrais écrire des mémoires, je pourrais écrire des fragments autobiographiques. Je m'y suis même engagé à deux ou trois reprises.
Oui, vous avez trop de pudeur pour ça. Vous ne le ferez jamais, vous avez trop de pudeur.
Ça m'a ennuyé considérablement. Je me dis, mais comment je vis tous les jours avec ce personnage? Il faudrait encore, par-dessus le marché, que je fasse la publicité, que je le farde, que je le coiffe, que je le dorlote. Alors je trouve qu'il y a tellement encore de gens inconnus à découvrir que je n'ai pas envie de m'enfoncer dans mon propre personnage.
Oui, mais là, il y a quelque chose de très étonnant, parce qu'on voit bien que vous adorez la vie.
Oui.
Mais vous ne vous adorez pas vous-même.
Ah, c'est trop fatigant.
Hein? Oui.
Non, hein? Non, je n'ai pas d'idole. Je ne vois pas pourquoi je vais me transformer en idole.
Enfin, quand même. Alors, à propos de cet amour de la langue française, il y a quelque chose d'assez surprenant, quand même. Cette insistance avec laquelle vous associez la langue française à la femme.
Oui, je crois même que, je ne sais pas par hasard, si la France est dénommée par un substantif féminin. Alors je m'explique. D'abord, j'ai constaté, dans mes études sur le 17e, le 18e en particulier, mais ensuite je suis remonté vers le 16e, je suis remonté vers le Moyen-Âge, c'est pas très difficile à faire, que le seul endroit en Europe où la considération des femmes, la confiance faite à leur intelligence, a joué un rôle capital dans le développement, non seulement d'ailleurs de la langue, mais aussi de la conversation, de la sociabilité, des mœurs et des manières, puisque c'est une expression heureuse qu'on a un peu oublié aujourd'hui d'employer, c'est justement cela. Quand vous regardez l'Angleterre, vous voyez bien que la sociabilité anglaise, jusqu'au XXe siècle, a été dominée par des clubs masculins. Et alors les femmes anglaises ont dû mener des vies extravagantes pour s'imposer. L'extravagance en Angleterre est une manière de combattre une sorte de privilège masculin extrêmement raciné.
Oui, vous préférez la compagnie alors, de Madame de Staël, de Madame de Défendre,
Madame de Scudéry,
club anglais.
Je me tourne vers l'Allemagne. Au XVIIIe siècle, nous avons une peinture, un art décoratif, une disposition d'appartement qui est entièrement conçue pour recevoir, et en particulier pour que des maîtresses de maison reçoivent, et reçoivent avec charme, avec grâce, avec... Et d'ailleurs, reçoivent non pas en s'effaçant, mais en jouant au contraire le rôle de chef d'orchestre, si j'ose dire. Si vous vous tournez vers l'Allemagne, vous voyez que quelqu'un comme Winckelmann, qui est peut-être la grande figure de l'Allemagne du XVIIIe siècle, il est parti pasteur protestant, pasteur luthérien, il arrive en Italie, il arrive dans un monde d'hommes à Rome, où il triomphe, et il écrit, dans un passage extraordinaire de son histoire de l'art dans l'Antiquité, que le seul corps qui soit digne de l'intérêt de l'homme de goût, c'est le corps masculin. C'est quand même... Alors, il avait évidemment des préférences, mais c'est quand même extraordinaire de l'écrire. Que l'on ait des préférences en privé, c'est tout à fait pardonnable, si j'ose dire. Mais affirmer comme un dogme qu'il y a une sorte de supériorité du corps masculin et que c'est là que se trouve le canon de la beauté, c'est même aller contre ces Grecs qu'il admire tant, parce que les Grecs ont quand même rendu des hommages fabuleux à Vénus et même à d'autres déesses qu'ils ont représentées dans une magnifique nudité. Et si vous faites le tour d'Europe, l'Italie aussi, malgré les apparences, est un pays où la sociabilité ne repose pas sur, en quelque sorte, un dialogue d'égal à égal entre hommes et femmes. Et en France, il faut reconnaître que c'est une tradition qui ne s'est jamais interrompue. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Madame, une des historiennes les plus brillantes, Madame Ozouf, a merveilleusement mis en évidence, de son point de vue à elle, qui est plutôt un point de vue historienne de la Révolution et des suites de la Révolution, combien la Révolution, en étant fascinée par l'Antiquité, par une Antiquité winckelmannienne d'ailleurs, a renversé cette tradition française de mettre la femme intelligente, brillante, douée, comme d'ailleurs un objet de désir, et puis aussi le centre de la sociabilité. Et donc la Révolution, comme vous le savez, a coupé le cou à Marie-Antoinette, qui était finalement une des grandes figures de la féminité. Elle a coupé le cou à Olympe de Gouges, qui a demandé autre chose, elle, mais qui était quand même, elle aussi, un chef de file féminin. Elle a assassiné sur l'échafaud Madame Roland, qui était une des femmes les plus brillantes de l'époque, et Madame de Staël a échappé de peu. Si elle n'avait pas eu le passeport suédois pour s'enfuir en 93-94, nous n'aurions pas ni Corinne, ni les chefs-d'œuvre qu'elle a publiés, dont d'ailleurs de l'Allemagne.
Ni les mots de Napoléon à son sujet, quand même.
Ni les mots de Napoléon à son sujet. Napoléon qui l'ensemble était d'ailleurs un peu,
moyenne,
qui était un tout petit peu dans l'esprit antiquisant des Jacobins, et qui traitait les dames avec une désinvolture que les libertins du XVIIIe siècle n'auraient pas supportée.
Troisième question récurrente de notre série, l'essentiel. Bien sûr, il y a une part de jeu dans la question. Votre regard sur l'évolution du monde en général et de notre société, qu'est-ce qui, sur ce plan-là, vous frappe le plus aujourd'hui et vous paraît essentiel à dire, s'il y a une chose que vous aimeriez dire sur l'évolution de notre société?
Alors, c'est extrêmement difficile. D'abord parce que je ne suis pas ni sociologue, ni économiste, ni démographe.
C'est comme ça que vous allez nous donner une réponse originale.
Je dirais simplement ce qui me frappe beaucoup, c'est que c'est une époque où, au fond, énormément de gens ont tous les moyens d'être infiniment plus heureux que leurs prédécesseurs. Et pourtant, la tonalité générale est plutôt sombre, sinistre. Les livres que l'on lit sont plutôt du côté du roman noir que du bonheur épique. Le cinéma, les spectacles, tout porte à une sorte d'ironie méphitique, alors qu'en fait, tout se propose à une vie un peu moins étroite, un peu moins serrée, un peu moins dure qu'elle ne l'était il y a une cinquantaine d'années.
Comment expliquez-vous ce paradoxe ?
Je pense que ce n'est pas un paradoxe particulier à notre époque. Je pense que chaque fois qu'il y a eu, disons, un moment de répit dans l'histoire de l'humanité, et Dieu sait si ils sont rares, il a été comme troublé par une sorte de remords, comme une sorte de gêne à bénéficier de cet avantage, de cette petite... Je vois par exemple pour le XVIIIe siècle, c'est très intéressant de voir que c'est une des périodes les plus heureuses de l'histoire de l'Europe. Et c'est un siècle dont on ne sait pas à quel point il est tourmenté. Il est tourmenté, il se compare au siècle précédent, se trouvant lâche, décomposé, corrompu. Et les grands esprits comme Rousseau lui font détester le luxe, lui font détester les arts, lui font détester même, je dirais, les plaisirs. Il faudrait revenir à un état antérieur pour que moralement soit justifié. En fait, il y a peut-être une incapacité humaine à être heureux. Et quand les conditions matérielles du bonheur existent, on s'arrange pour le ronger un peu, et en tout cas le gâcher.
Sans faire de pédantisme métaphysique, vous faites un lien entre ce constat et finalement l'inéluctabilité de la mort.
Écoutez, l'inéluctabilité de la mort la rend en quelque sorte prévisible. Il n'est pas nécessaire de se gâcher l'existence.
Ça, c'est un art de vivre, c'est
pour
autre chose.
Là, pour se fixer son regard sur elle.
Ça, c'est Marc Aurèle, mais
elle viendra
la vie quotidienne. La vie quotidienne.
Écoutez, je ne vois pas très bien ce que la vie quotidienne...
Vous, ça ne vous tracasse pas, ça.
Pardon, quoi ?
La perspective de la mort ne gâche pas les plaisirs qui peuvent se présenter devant vous.
Ah non, absolument pas.
Pas du tout. Vous
êtes... je ne comprends même pas comment cela est possible.
C'est quand même très fréquent, non ? Vous ne le constatez pas autour de vous ?
Mais je ne crois pas.
Une espèce de tropisme, là
de... Non, je ne connais pas de gens qui sont à ce point assombris par la perspective qu'ils vont un jour disparaître.
Vous êtes aussi perspicace dans le choix de vos amis que dans le choix de vos lectures. Là.
Enfin oui, probablement, je choisis des gens qui ont les mêmes précautions que moi.
Quatrième question récurrente de notre série L'Essentiel. Pour vous, Marc Fumaroli, quelle est la plus grande hypocrisie de notre temps ? Avec tout le plaisir que j'ai pu prendre à vous lire, il y en a une qui me paraît ressortir quand même de vos écrits. C'est que prétendre que l'État puisse être le grand régulateur culturel de notre société.
Oui, ça c'est exact. C'était surtout le cas d'ailleurs au moment où j'ai écrit l'État culturel.
Et c'était en 91.
Où il y avait une euphorie économique, une grande abondance de financement public et où la personnalité assez flamboyante de Jacques Lang cherchait à se poser comme une sorte de voyageur représentant placier de la culture française dans tous les domaines, y compris d'ailleurs dans les domaines où l'intervention de l'État ne s'imposait absolument pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, les choses ont revenu à une échelle plus modeste. Maintenant, il faut bien dire aussi que c'est une hypocrisie dans la mesure où l'excès de prétention de l'État est condamnable, mais que l'État ait des devoirs envers, disons, l'éducation des citoyens, qu'il ait des devoirs envers le patrimoine monumental ou le patrimoine muséal ou le patrimoine dans le sens le plus large, qu'il ait aussi une responsabilité vis-à-vis des différents arts pour des théâtres nationaux, des opéras nationaux, des conservatoires nationaux, des endroits exemplaires où sont formés des jeunes gens de la manière la plus brillante et d'une manière aussi égalitaire, puisque on se fie au talent et on permet à ces jeunes gens de faire des études qui seraient très coûteuses s'ils les faisaient dans des écoles privées. Donc il me semble quand même que chaque fois que j'ai parlé de cela, j'ai toujours souligné qu'il est tout à fait normal d'attendre de l'État, et en ce sens les Français sont particulièrement bien placés, de remplir un certain nombre de devoirs envers la collectivité dans l'ordre, je dirais, d'un mot qui est plutôt difficile parce qu'il a été tellement galvaudé, dans l'ordre de la culture. Parfois je suis tenté de remplacer le mot culture tellement il a été gâché par le mot éducation, formation ou maturation intellectuelle et morale et spirituelle. Et il me semble que là, on cite souvent le système américain qui effectivement repose sur une sorte d'évergétisme, comme on dit en Grèce, c'est-à-dire toute fortune se sent tenue et est tenue moralement de mettre une partie de ses revenus, avec d'ailleurs quelquefois des avantages fiscaux, dans les opéras, les universités, les troupes de danse et toutes sortes d'activités brillantes et nombreuses d'ailleurs de la société américaine. Ça n'est pas à ce même degré, en tout cas, dans nos mœurs, et il est souhaitable quand même que l'État garde, si vous voulez, le sens de son devoir dans ce domaine, et il le garde d'autant mieux qu'il ne s'embarrasse pas à aller soutenir des choses que le marché par lui-même soutient très bien.
Ce qui veut dire que pour vous, l'État doit toujours avoir en ligne de mire la sauvegarde d'un patrimoine, la mise en valeur d'un patrimoine.
Oui, non seulement la sauvegarde d'un patrimoine, mais aussi une certaine qualité dans l'éducation, dans la formation, dans une époque où on a tendance, au fond, à préférer la quantité à la qualité. L'État, justement, comme il est ce qui est stable, ce qui n'est pas entièrement soumis, ce qu'il est de plus en plus, bien sûr, mais enfin, il est quand même l'État, c'est-à-dire, il ne faut pas quand même oublier que c'est un mot qui signifie la stabilité, la continuité, mais peut-être même à certains égards la tradition. L'État doit suggérer des critères de qualité.
Mais le fait qu'aujourd'hui il y ait plus de monde dans les musées que dans les stades, c'est une chose qui vous paraît artificielle ?
Pas du tout, je me réjouis beaucoup, puisque en tant que président des Amis du Louvre, je souhaite que le nombre de nos adhérents soient de plus en plus nombreux. Nous y attachons beaucoup d'importance, le président du Louvre également. Et effectivement, je suis émerveillé de voir que le mercredi soir, par exemple, puisqu'il y a une soirée très tard ouverte et gratuite, c'est le rendez-vous de jeunes le plus nombreux, le plus vivant que l'on puisse voir à Paris. Et ces jeunes ne sont pas simplement là pour se trouver ensemble, ils le sont en partie, mais ils se répartissent aussi, ils visitent le musée. Et ils ont l'impression qu'à travers ces œuvres, ils touchent quand même à un monde qui n'est pas complètement nivelé, qui n'est pas complètement quantifié, qui n'est pas complètement commercialisé. Il y a quelque chose de beau et de gratuit quelque part dans le monde, et le musée l'atteste.
Et le mystère de la beauté est là, quoi.
Puis le bonheur de la beauté aussi.
Cinquième question récurrente de notre série L'Essentiel. Quel est l'événement de ces dernières années ou la tendance apparue ces dernières années qui vous laisse, Marc Fumaroli, le plus d'espoir ?
Là aussi, bien que je ne sois pas un pessimiste, je cherche avec ma lanterne. Ce qui me paraît le plus réconfortant, c'est dans l'expérience que j'ai des nouvelles générations. Bien sûr, je n'enseigne plus. Enfin, j'ai quand même l'occasion de rencontrer beaucoup de jeunes gens, beaucoup de jeunes filles, et même du simple point de vue scientifique, si vous voulez, parce que ce sont des jeunes gens et des jeunes filles, ils font des travaux. Mais d'autres qui appartiennent à d'autres secteurs d'activité. Il me semble que ces nouvelles générations sont très sympathiques. Elles ne sont peut-être pas magnifiquement formées, mais elles ont tous les éléments pour devenir beaucoup moins compliquées, beaucoup moins farcies d'idéologie, de préjugés, de politiquement correctes, que les générations précédentes qui étaient, en fin de compte, les héritiers de cette terrible période de guerre où la France a été, évidemment, en guerre avec elle-même, dans le mépris de soi et en même temps dans l'orgueil de soi. Enfin, une situation qui était finalement très compliquée, qu'on finit par avoir dépassé un peu. Alors je suis persuadé que nous avons affaire à de très belles jeunes générations et qu'on aura des surprises et qu'on en a d'ailleurs déjà beaucoup.
Sixième question récurrente de notre série L'Essentiel. Quel a été, Marc Fumaroli, le plus grand échec de votre vie? C'est indiscret. Hein, et comment l'avez-vous surmonté ou avez-vous tenté de le surmonter? Vous n'êtes pas obligé de répondre à la question.
Non, je ne crois pas que je puisse y répondre parce que je ne me vois pas devant un échec tel qu'il ait été un drame pour moi. J'ai subi des échecs ici ou là. Mais enfin, ça n'a jamais été des échecs qui pouvaient me briser, par exemple. Il y a des gens qui ont subi des échecs, qui les ont brisés. J'ai eu la chance que ça ne m'arrive pas. Je ne sais pas si j'aurais résisté, si je me serais reconstitué. Mais je dois dire que c'est ce que les Latins appelaient la fortuna, qui a veillé sur moi et qui m'a empêché de connaître ce genre d'impasse. Parce que c'est au fond une impasse terrible. Les seuls événements très graves que j'ai connus se sont retournés en excellentes opportunités, c'est un mot affreux, en excellentes occasions. J'ai eu un accident de voiture qui aurait dû me tuer, et en fait, je m'en suis tiré sans la moindre égratignure. Et à partir de ce moment-là, ça m'est arrivé deux ou trois accidents très graves de ce genre, où chaque fois, croyant que tout était fini, je suis sorti très vite indemne. Et chaque fois, il m'a semblé que je nouais un nouveau contrat, que tout ce temps qui m'était donné, alors qu'il aurait pu m'être enlevé, était un temps de luxe, en quelque sorte, avec lequel je pouvais me déployer avec infiniment plus de liberté que s'il avait été un temps, en quelque sorte, dans la logique de ma vie non interrompue. Alors finalement, ces accidents, assez terribles d'ailleurs, mais qui m'ont évité, en quelque sorte, m'ont donné le rebond nécessaire pour considérer que j'avais devant moi du temps libre.
En vous écoutant, je pense aux mots de Marcel Pagnol. Méfiez-vous des gens tristes, ils sont rarement sérieux.
Je crois que c'est très joli, ce mot-là. Je le prendrais volontiers à mon compte.
Oui, vous auriez pu l'écrire. Septième et dernière question récurrente de notre série L'Essentiel. Aujourd'hui, quelle est, Marc Fumaroli, votre motivation essentielle dans la vie?
Oui, j'en ai beaucoup. Oui. Elles font peut-être bouquet, si j'ose dire. Enfin, ma principale motivation, c'est de faire très bien ce que j'ai encore la force de faire.
Mais tout à l'heure, vous disiez que, au fond, enfin, vous le disiez entre les lignes, mais que votre culture et votre érudition vous protégeaient des incertitudes, voire des médiocrités du temps. C'est important, ça, pour vous?
Ah oui, capital. Ah oui, parce que c'est vraiment le d'ascèse, parce que l'ascèse, ça suppose une ascension. Et au fond, l'érudition vous fait monter dans des régions plus calmes. Et en fait, c'est ce jeu d'ascenseur, si j'ose dire, de redescendre dans l'actualité avec cette espèce de tempête permanente, aveugle en quelque sorte sur elle-même, et puis cette remontée vers des régions qui sont beaucoup plus préhensibles et qui surtout ne sont pas tempestueuses, qui ont retrouvé en quelque sorte un certain calme et qui vous donnent une grande distance. C'est cela peut-être un peu une forme de sagesse, en tout cas, à laquelle m'a conduit la recherche historique.
Mais vous associez, vous, presque toujours, les mots et les choses, c'est-à-dire que la culture ne va pas sans les bonnes manières. Les bonnes manières sont presque un effet de l'art, ou même un effet de l'âme, à la limite.
Oui, mais vous savez que je me suis beaucoup occupé de rhétorique, oui. Et un des grands principes qu'on trouve niais, naturellement, de la rhétorique, parce que la rhétorique suppose un bon sens qui, aujourd'hui, paraît vulgaire ou facile, c'est que la parole doit être à la fois utile et douce. C'est-à-dire qu'elle doit à la fois séduire, produire un effet de plaisir chez celui ou celle à laquelle elle est adressée, et en même temps, elle doit informer, elle doit faire passer une vérité ou en tout cas une vraisemblance. Et donc, pour moi, la beauté et la vérité ne se séparent pas, mais l'effet éducatif, si vous voulez, de la beauté de la vérité est capital. Je ne peux pas imaginer qu'on puisse cultiver les arts, cultiver aussi la discipline historique, si ça n'est pas pour se changer soi-même, pour vivre mieux, pour connaître la vie bonne, comme disent les philosophes anciens. Alors il me semble que j'ai essayé de ne pas être un pur et simple savant, de ne pas être un pur et simple érudit, de ne pas être un pur et simple professeur même, d'avoir, de m'appuyer sur toutes ces activités, toutes ces disciplines, pour mûrir intérieurement. Je ne sais pas si j'y ai réussi. En tout cas, ça ne m'a pas rendu trop malheureux. Je n'ai pas rendu, j'espère, trop malheureux mon entourage.
Apparemment, non. Mais est-ce que ça veut dire que, au fond, pour vous, la question essentielle à se poser aujourd'hui, c'est qu'allons-nous faire de la beauté, au fond ?
C'est peut-être effectivement une des questions les plus urgentes à certains égards, parce que sans la beauté, beaucoup de bonheur se perd, et même le sens même du bonheur risque d'être ébranlé. Et il me semble que même dans nos démocraties qui ont tendance à penser qu'il faut que des phénomènes de grande, statistiquement saisissables, l'emportent sur tous les autres, il n'en reste pas moins que individuellement, personnellement, nous sentons bien qu'il y a un certain nombre de valeurs avec lesquelles on ne peut pas plaisanter et dont on ne peut pas se passer si l'on veut que l'existence, la vie ne soit pas une vallée de larmes.
Alors, puisque vous parlez de démocratie, dans ce livre donc, sur l'état culturel, dans la conclusion, vous parliez de Tocqueville. Et vous disiez que pour Tocqueville, il y avait une seule grande question, au fond. Quelles sont les chances de l'esprit face à la culture de masse qu'engendre la démocratie moderne ? Donc ça, c'était en 91. Nous sommes en 2010. Vous avez la réponse ? Ou un embryon, ou une esquisse d'esquisse de réponse ?
Il n'y a pas de réponse. C'est la question fondamentale. Et elle est le lieu d'un combat. Et ce combat, il ne sera jamais gagné pleinement. Mais peut-être peut espérer qu'il ne sera jamais non plus perdu totalement.
Alors, donnez-nous une leçon de sagesse pour terminer. Comment faites-vous pour concilier à ce point lucidité et une espèce de capacité à être heureux, rarissime, quoi ? Comment arrivez-vous à associer les deux ?
Il faut croire que le prix de la lucidité, qui est parfois très lourd, que je n'expliciterai pas, je l'assume en me disant ces sacrifices, ces angoisses, ces tourments, cette espèce de terrible douleur d'enfantement, comme beaucoup de gens qui travaillent, j'éprouve, ce ne sont pas des données permanentes. Elles vont être rachetées, illuminées, justifiées, compensées par leurs résultats. Et jusqu'ici, c'est comme ça que je me suis tiré.
Ainsi s'achève cet essentiel donc consacré aujourd'hui à Marc Fumaroli, professeur honoraire au Collège de France, membre de l'Académie française ainsi que de l'Académie des inscriptions et belles lettres. Marc Fumaroli, merci pour tout ce témoignage de sagesse, au fond, de grande sagesse. Et merci à tous et à toutes d'être avec nous.
Merci en tout cas de votre attention et de vos questions.